cinéma sur Présence le mercredi. Tout de suite, c'est N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Alors Laurent, d'un coup il fait frais.
Oui.
C'est bien de faire du vélo ou de venir à pied, en fait ça réchauffe.
Oui, je suis venu à pied en sortant du cinéma, mais c'est vrai qu'il fait un peu frisqué, donc je vais aller se réchauffer devant un bon film au cinéma. Hein.
Quelle bonne idée. Mais vous, c'est aussi le canapé qui vous intéresse, celui qui est bien placé devant la télé,
oui.
Et regarder les films que vous allez nous conseiller.
Exactement, le canapé, on peut se mettre une petite couverture dessus, pour se réchauffer, bientôt le radiateur, et puis regarder un bon film avant de s'endormir.
Oui.
Et donc j'ai sélectionné pour cette semaine 4 films pour le cinéma et la télévision. Et bon, d'habitude, je vous dis qu'on peut éteindre les écrans, mais là, il faudra les allumer si on veut voir un Blu-ray.
Ah ben oui,
qui touche, qui vient de sortir.
Oui, temps en temps, ça vous dit, ça vous plaît.
Oui.
De garder la télé allumée. Et puis, vous me direz, les Blu-ray, en général, la qualité du son et de l'image...
sont exceptionnelles, oui.
Exactement. Ben ça, c'est pour tout à l'heure, avec nous également, celui que... Alors, tout le monde nous envie et que ces admiratrices adultes.
Ah oui.
Mais ce soir, elles ont été un peu frigorifiées, donc elles se sont enfuies. Et voilà notre Guillaume Sidom déçu. Bonsoir Guillaume.
Un peu déçu Louis-Marie.
Alors Guillaume, votre retour de manivelle, vous qui êtes notre mécanographe du cinématographe.
Ah, ce soir un chef-d'œuvre, une critique sociale, portrait d'une humanité saisie en pleine folie. À noter que des places sont à gagner pour ce magnifique film en partenariat avec l'ouvreuse. Je vous dis tout dans quelques minutes.
Ah bah oui, les auditeurs sont impatients de le savoir. Qui aura-t-il ce soir en plus dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, il y aura Grégory Com qui va encenser une série. Et une série de Disney+. Oh là 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 là. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un changement de temps.
C'est à se demander.
Oui, Alien Earth, à voir sur Disney+. Et c'est pour tout à l'heure dans le tribunal des séries, avec notre homme de loi, qui sera ce soir un bel avocat. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Il y aura également dans le panier de l'ouvreuse les rubriques habituelles, celles que tout le monde attend également, où vous parlez de l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse, Laurent, et puis on parlera des reprises sur le grand écran avant les vôtres sur le petit. Et puis quoi d'autre encore? Eh bien, les coups de cœur en fin d'émission, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, voire des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Allez, on vous amène au cinéma, installez-vous confortablement là, c'est la version française.
Vous êtes les infirmières du docteur Miller ?
Docteur Miller ?
Je suis le docteur Miller. Drôle d'endroit pour ouvrir un cabinet. Vous avez une spécialité ?
Oui. Les dingues.
Où prendrez-vous l'eau pour les douches froides ? Ça se soigne par l'eau, je crois. Vous avez un puits ?
Non. Mais j'ai vu une rivière en bas de la colline.
Elle est sur mon ranch, docteur Miller. Et je n'ai pas l'intention de vous voir salir l'eau de mes bêtes.
Autrement dit, nous n'avons plus qu'à partir, qu'à tout abandonner.
On vous a trompé sur la valeur de Little P. Mais je vais vous faire un plaisir. Je vous le rachète au triple. Ça tient jusqu'à demain.
Je vous le rachète au triple et ça tient jusqu'à demain. Mais vous avez reconnu ces voix parce que j'ai dit que c'était la version française et pour cause, le film a été tourné en français. Donc c'est bel et bien la voix des interprètes qu'on entend là. Et ce film, vous l'avez reconnu, c'est Les Pétroleuses, le film de Christian Jacques dans lequel on retrouve pour la première fois 10 ans après qu'on les ait associés, en fait la presse les a associés, puisque nous parlons bien sûr de Claudia Cardinale et de Brigitte Bardot, eh bien parce que la presse avait dit que Bébé c'était la blonde et Cécé c'était la brune. Voilà pourquoi, on les a mis un peu sur le même plan, mais comme elles n'avaient pas la même couleur de cheveux, il n'y avait pas de rivalité entre elles. Et donc, je le disais, elles ont tourné un film ensemble, le fameux Les Pétroleuses de Christian Jacques, film dans lequel Brigitte Bardot interprète Louise et Claudia Cardinal Maria. Brigitte Bardot, c'est le docteur Miller, en fait, pas du tout, parce que Louise et ses quatre sœurs sont des hors-la-loi, et elles arrivent toutes belles et bien habillées. Après avoir attaqué un train, elles décident de prendre leur retraite. Elles ont découvert dans leur butin le titre de propriété d'un ranch. Et c'est là où elles viennent d'arriver. Ce ranch s'appelle Little Pea. Mais une fois arrivées, elles se heurtent à l'hostilité de Maria Sarrazin parce qu'elle veut leur acheter leur ranch. Alors vous comprendrez que rien que de vouloir leur acheter, Louise va pas vouloir le vendre. Et vous doutez de ce qu'il y a sur le terrain ? Évidemment, à l'époque, du pétrole.
Pétrole.
Pourquoi les pétroleuses, évidemment. Alors, tiens, messieurs, un film de Claudia Cardinal que vous avez en tête, comme ça.
Moi, je pense au Pigeon, hein, sa révélation, le premier grand rôle de la jeune actrice dans cette comédie à l'italienne, où elle joue le rôle de Carmelina, s'il me semble, si je me rappelle bien. Et puis, elle est aux côtés de Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Toto. Un film qui va quand même lui servir de tremplin, il me semble, pour toute la suite de sa carrière.
Ah oui, c'est le film qui l'a révélé. Elle n'a pas un premier rôle, mais c'est le film qui l'a révélé, oui.
Premier vrai rôle, hein, j'ai dit.
Oui.
Inoubliable, non, il était une fois dans l'Ouest.
Évidemment.
Et d'Henri Fonda et de...
Et Charles Bronson.
Charles Bronson.
L'homme à l'harmonica.
Exactement.
Il y a Jason Robards aussi dans le film. Fabuleux. Elle est née en Tunisie d'un papa sicilien et d'une maman
française.
Et à 17 ans, celle que l'on surnomme la berbère. Bah oui, maintenant que vous savez, brune, son teint hâlé, remporte un concours de beauté qui est organisé par l'Office du cinéma italien. Et donc, elle est élue plus belle italienne de la ville de Tunis et gagne un billet pour la Mostra de Venise. Et tout ça va la propulser dans le monde du cinéma. Elle est si belle, eh oui, que les propositions de rôle affluent. Et en fait, elle ne veut rien entendre parce que, eh bien, les photographes voulaient la prendre en photo, les cinéastes voulaient la faire tourner. Elle, ça l'intéressait pas. Et finalement, elle n'acceptera qu'une brève apparition dans Anneau d'or, un court-métrage de René Vautier, le futur réalisateur d'avoir 20 ans dans les Aurès. Et ce premier film remporte en 56 l'Ours d'argent au Festival de Berlin Ouest. C'est important à l'époque.
À l'époque, oui.
Mais elle rêve toujours de devenir institutrice. Elle n'est toujours pas décidée à devenir actrice. Et c'est plus tard qu'elle le deviendra. Et on la découvrira donc dans Le Pigeon. Et puis après, il y aura son premier grand rôle, c'est en 60 avec Marcello Mastroianni dans Le Bel Antonio. Et puis, elle a 22 ans quand Luchino Visconti l'a fait tourner dans Rocco et ses frères d'abord. Et puis, elle retrouve Alain Delon dans Le Guépard,
oui,
du même réalisateur, Luchino Visconti. Quand on voit ce couple dans ce film, c'est extraordinaire. Ouais. Quand on voit Claudia Cardinal danser avec Burt Lancaster, c'est extraordinaire. Tout est magnifique. Dans ce film, elle devient donc la protégée de Visconti. Et elle disait d'ailleurs qu'elle avait un lien particulier avec lui. Elle disait de lui qu'il était le plus élégant et le plus cultivé qu'elle n'ait jamais rencontré. Et il l'invitait souvent à dîner, et il avait toujours une attention pour elle. Il lui cachait un petit cadeau qui est sous la serviette ou à côté de la place où elle allait manger. À son actif, alors, vous l'avez entendu juste avant nous, il y avait un flash où notre ami journaliste a signalé qu'il y avait plus de 100 films. Elle aurait tourné 100 films. D'autres disent jusqu'à 150. Alors, oui. 130
films.
Mais en tout cas, elle a largement dépassé la centaine. Et puis, donc, on se souviendra de quel film Cartouche, de Philippe de Broca aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Et puis, il y a La Panthère Rose de Black Edwards. Elle est dans La Panthère Rose de Black Edwards. Ce film de guerre de Mark Robson, Les Centurions, elle y est aussi.
Dans 8 et demi.
Bien sûr, de Federico Fellini, Les Professionnels de Richard Brooks. Et puis, il y a Le Ruffian aussi de José Giovanni avec Lino Ventura. Il y a de très grands films avec elle. Et il faut dire qu'elle était un peu comme Belmondo, Claudia Cardinal. Vous le savez? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle adorait réaliser elle-même les cascades. Dans le plus grand cirque du monde, elle faisait son numéro de trapèze sans doublure.
Ah oui.
Extraordinaire.
Et sans filet.
c'est pas sûr. Ça vous dit quelque chose, David Niven?
Oui. Ah bah oui.
Le grand acteur britannique. Anglais. Alors, maintenant, il disait d'elle que, après les spaghettis, c'est la meilleure invention de l'Italie.
Oui.
À prendre comme un compliment.
Oui, oui. On n'aurait pas dit ça comme ça, mais bon.
Oui. Peut-être que maintenant, ça ne pourrait pas se dire, ça ne pourrait plus se dire. Et donc, on le cite en mettant bien des guillemets, oui. Et c'est David Niven qui a dit ça à son propos. Voilà pour Claudia Cardinal. Et vouliez ajouter quelque chose.
Je voulais dire que c'était quand même une femme libre et inspirée. On en a parlé dans son parcours de femme tant que dans son parcours d'artiste. Et elle déclarait « J'ai eu la chance de commencer dans les moments magiques du cinéma ». Et juste pour finir aussi, cet hommage de Gilles Jacob, hein, l'ancien président du Festival de Cannes, à propos d'elle, elle est partie, la fille à la valise, elle n'ouvrira plus le bal du Guépard.
Pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est la musique que nous allons écouter maintenant, signée Ennio Morricone. Dans quel film, à votre avis?
Il était une fois dans l'Ouest.
Évidemment, il était une fois dans l'Ouest, et c'est cette musique qui accompagne son arrivée dans la ville. Elle est là, elle descend du train, elle pense qu'on l'attend, elle regarde, elle observe autour d'elle, elle comprend pas ce qui se passe, et puis elle va aller jusqu'à ce village, cette petite ville qui commence à grandir. Nous avons accompagné Claudia Cardinal, en tout cas son personnage, celui qu'elle interprète dans Il était une fois dans l'Ouest, au moment où elle arrive dans cette petite ville où tout va se passer. C'était la première fois qu'on voyait ces drôles d'accoutrements, vous savez, ces espèces d'imperméables qu'on appelait des cache-poussières, les maxi-manteaux qui sont devenus à la mode à l'époque. Il faut se rappeler que le film est sorti en 1968. D'un film à l'autre, d'une terre à l'autre, on passe de l'Ouest américain un peu aride à des choses beaucoup plus terribles encore, beaucoup plus humides et beaucoup plus boueuses.
Ce n'est pas un lieu dont on s'empare sans rencontrer de résistance, mais il n'est pas inviolable.
Ce mot est assez étrange.
Comment cela ?
On dirait qu'il s'agit de s'attaquer à la vertu d'une femme.
Ah oui, tout à fait. Vous êtes étincelant ce matin, colonel. Encore plus que d'habitude. Mais ne perdons pas de vue que le colonel était peut-être l'avocat d'assises le plus brillant de France.
Je sais, mon général.
Messieurs, vous êtes trop aimable.
Dites-moi, colonel, comment s'est passée la relève hier soir ?
Il est tombé quelques obus. Nous avons eu 29 blessés.
Oui, en venant ici, j'ai remarqué totalement inexcusable. Stupide, tous agglutinés comme un essaim de mouches attendant qu'on vienne leur taper dessus.
Rien ne leur sert de leçon, semble-t-il. Dès que le feu devient plus intense, ils se rassemblent comme un troupeau de moutons. L'instinct grégaire, je suppose, ou réaction d'animal inférieur.
Réaction humaine assez courante, il me semble. Ou ne faites-vous aucune distinction entre les deux, commandant ?
Oui, c'est tout à fait regrettable, bien sûr. Bien sûr.
Quelle conversation qui a lieu dans les tranchées, on peut le dire maintenant, au cours de la Première Guerre mondiale. Il y a là, dans cette tranchée, un général, un colonel et un commandant. Mais dites-nous tout à leur propos, Guillaume Sidom.
Eh bien, nous sommes dans les tranchées pour Les Sentiers de la Gloire, film de Stanley Kubrick de 1957, sorti en France seulement en 1975, je vais y revenir, avec Kirk Douglas, Ralph Meeker au casting notamment, musique signée Gerard Frild, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Un grand film, un très grand film même. Et ce dernier a démarré depuis 25 minutes, rendez-vous compte, lorsque nous enfonçons dans les tranchées à travers les yeux du colonel Dax, grâce à un travelling avant puis arrière en contre-champ, nous progressons au milieu des soldats rangés sur chaque côté, et l'enchaînement des explosions vient à peine perturber la marche en avant du gradé au milieu des combattants sous son commandement. S'offre alors devant nous peut-être l'une des séquences les plus marquantes du film. C'est aussi l'une des premières fois que le cinéaste expérimente ce trait esthétique qui le caractérise tant, le plan séquence avant cadré de manière symétrique. Et plus tard dans Shining ou encore 2001, l'Odyssée de l'espace, eh bien Stanley Kubrick use de ce procédé encore et encore, offrant quelques-unes des plus belles séquences cinématographiques du 7e art. Chaque séquence de Path of Glory, c'est donc le titre original, est un nouvel émerveillement, comme une tentative à chaque fois renouvelée de prouesses techniques et émotionnelles. Au niveau formel, ce film est un chef-d'œuvre incomparable. La guerre, vous le savez, la grande obsession de Stanley Kubrick, inspirée d'un livre du romancier canadien Humphrey Cobb, Les Sentiers de la Gloire, raconte une attaque suicide de l'armée française qui se déroule sur 3 jours en 1916. L'officier responsable de l'assaut décide de sacrifier des hommes pour un avancement de carrière et sa gloire personnelle. L'offensive échoue, puis en cour martiale, le général accuse ses hommes d'avoir rebroussé chemin. 3 hommes payent donc de leur vie l'échec militaire afin de donner l'exemple à l'ensemble du régiment. 18 ans d'attente, rendez-vous compte. Virulent film anti-militariste, en tout cas c'est ce que dit la presse à l'époque, Les Sentiers de la Gloire n'a en effet pas la chance d'être connu des spectateurs français avant 1975, soit 18 ans après sa sortie officielle. Il faut dire que cette histoire d'exécution arbitraire par la hiérarchie militaire a de quoi déplaire à l'époque au gouvernement français, 12 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, et alors que la France est en plein conflit en Algérie.
Mais au-delà de la cruauté du conflit guerrier, c'est à l'appareil militaire que s'attaque le cinéaste américain.
Lâche, mécanique et coupé des réalités du terrain, les hauts gradés sont les cibles de la caméra du réalisateur. D'abord, déprogrammé en Belgique, le film n'est pas projeté en France. En effet, la pression des politiques français ôte l'envie à la société de distribution de faire une demande de visa d'exploitation pour l'Hexagone. Et à l'automne 1957, le consul de France à Los Angeles, un certain Romain Gary, assiste à la première du film, atterré par la critique des dirigeants militaires qui fait Kubrick. Il contribue donc à empêcher sa diffusion en France. Le pays est alors en état d'urgence à cause de la guerre d'Algérie, je l'ai dit, et l'on songe alors au retour de la cour martiale. Et en Belgique, La police doit même intervenir lors d'une projection du film dans un cinéma de Bruxelles. Elle évacue une vingtaine de personnes après un échange de coups de poing. Choqués par le film, des officiers de réserve français résidant en Belgique et d'anciens combattants belges affrontent alors des militants de gauche pacifiste. Voilà pour l'histoire dans l'histoire. Le reste est une vaste tragicomédie, une ronde d'hypocrisie, de lâcheté bien humaine, plus ou moins déguisée, d'auto-persuasion hallucinée, le tout mécanisé jusqu'à l'absurde par les mots creux et les protocoles rigides, hiérarchisant par là même les décideurs aux mains propres et les exécutants bons à broyer.
Pour filmer cette ronde, Kubrick adopte deux attitudes.
Il y a celle de l'observateur distant à l'ironie cruelle, capturant en plan long les agitations de la fausseté, de la futilité dans la fonction militaire, dans les salons luxueux et au front. Et puis il y a celle du chasseur des surgissements, de la contrariété, de l'émotion et de la pulsion. En bref, de tout ce qui trahit l'inanité des protocoles et ce qui se traduit en un découpage rapide venant souvent briser la fausse tenue des plans longs suspensionnés. D'une manière générale, c'est la part la plus hollywoodienne du film, hein, cette foi forcée en la subsistance de la justice et d'une bonté humaine gisant au fond du militaire qui se trouve ici vidé de son sens. Un monument du 7e art, puissant réquisitoire antimilitariste. Ce film garde une puissance incroyable à la force encore si actuelle. Nous ressortons de là révoltés, gonflés à bloc, glacés, avec la conviction que dès son 5e film, Kubrick est déjà Kubrick. À retrouver donc ce jeudi 25 septembre 19h30 au Pathé Wilson, séance de rattrapage le mardi 28 octobre 19h30 dans le cadre du cycle Galaxy Jaoui jusqu'au 20 novembre prochain en partenariat avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèquedetoulouse.com en Blu-ray et DVD chez Carlotta. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Après la Marseillaise que vous avez reconnue au tout début de cet enregistrement, le thème principal du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, arrive et il est bel et bien signé Gérald Fried.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
Oui, le temps d'enlever mon uniforme, lui, Marie, et je suis à vous. Alors, on va rester un peu dans la guerre.
Oui.
oui. avec une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson avec trois acteurs oscarisés, excusez du peu, Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro et Sean Penn. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob, incarné par Leonardo DiCaprio, vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Et quand son ennemi juré, incarné par Sean Penn, refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Quelle heure est-il ? Non, je ne vous demande pas l'heure, mais c'est l'interrogation de l'interlocuteur mystère au bout du fil. Quand Bob Ferguson, donc incarné par Leonardo DiCaprio, eh ben lui, il n'arrive pas à répondre. Il a un trou. Il sait qu'il doit donner un mot de passe, appris par cœur dans le manuel du révolutionnaire. Mais ça fait un moment qu'il n'a pas ouvert ce bouquin. Bon, il faut dire aussi qu'il a le cerveau grillé par les drogues et l'alcool, ingurgité à haute dose depuis des années. Et donc, sans mot de passe, impossible de rejoindre la planque où sa fille Willa a trouvé refuge. Impossible de l'aider à échapper aux griffes de Stephen Loggie, incarné par Sean Penn, un colonel raciste et sanguinaire. Il faudra alors à Bob un coup de main de son prof de karaté, Sensei Giorgio, incarné par Benicio Del Toro, pour retrouver ses réflexes d'homme d'action, car 16 ans plus tôt, Bob était un combattant d'exception, expert en explosifs, menant la guerre aux autorités au sein d'un groupuscule des French 75, bref, un Rambo en puissance qui va reprendre du service. Quelle heure est-il est également une question que l'on peut se poser devant ce film. Ou plutôt, à quelle époque sommes-nous exactement ? Le film est lointainement inspiré d'un livre de Thomas Pynchon, Vinland, qui racontait la gueule de bois d'activistes radicaux des 60s, en plein retour de bâton conservateur sous Reagan, dans les années 80. Mais le réalisateur a eu l'idée de transposer cette intrigue dans l'Amérique contemporaine. Une façon pour lui d'ailleurs d'échapper à la nostalgie baba ou au décorum post-hippie qu'il a exploré avec Boogie Night, Inherent Vice ou Licorice Pizza, ses derniers films. Et une manière aussi de dire que la chape de plomb trumpienne qui s'abat actuellement sur les États-Unis est l'aboutissement d'une contre-révolution entamée de longue date en réaction au militantisme 68ard. Alors, malgré la dégaine un peu à la Big Lebowski de DiCaprio, ceci n'est pas un film labyrinthe. L'intrigue file droit et s'interdit des détours. Il s'agit de sauver une jeune fille des mains de l'ennemi, comme dans une version un peu inversée de La Prisonnière du désert. Vous savez, avec cette fois-ci, ce serait des suprémacistes blancs dans le rôle des Indiens. Passer un premier acte où Paul Thomas Anderson malaxe avec fluidité et quantité de personnages, de lieux, d'informations, le film se met à foncer vers son point d'arrivée, calant son rythme sur celui du personnage de DiCaprio, une espèce de boomer déphasé, mais finalement trop heureux de reprendre les armes. Une bataille après l'autre vous plonge la tête à la première dans le marasme politique américain contemporain. Il le fait avec la générosité d'un grand spectacle du samedi soir, plein à ras-bord de gags, de suspense, d'émotions aussi, de course-poursuite, bien sûr, flingue à la main et pied au plancher. Paul Thomas Anderson a parfois pu donner l'image d'un esthète enfermé dans le piège de sa propre virtuosité. On se rappelle du fabuleux Zero Will Be Blood. Ce ne sera pas le cas avec ce film à l'énergie démente qui laisse le spectateur avec un grand sourire aux lèvres et puis le cœur qui cogne fort. Le réalisateur de Magnolia et Zero Will Be Blood inscrit son nom dans la liste des très grands réalisateurs. Petite revue de presse sur ce film. Alors, difficile de trouver des critiques négatives.
Télérama, peut-être, non ?
Non, même pas. Je vous l'ai dit.
Les Inrocks.
Ouais. Non, même pas. Vous voyez, c'est un peu l'unanimité. D'ailleurs, le film est très, très bien noté sur les différents sites. Peu de films semblent aussi bien placés pour obtenir un maximum de statuettes. Un divertissement brillant selon 20 minutes. Jamais n'avait-on vu à l'écran avec autant de précision et de clarté le cœur de Paul Thomas Anderson selon le cinématiseur. La Croix bien aimée aussi, le plus ambitieux de sa carrière mais aussi son plus émouvant, un souffle de vie inespéré. Et puis Télérama a bien aimé aussi, le cinéaste regarde l'Amérique dans les yeux et signe un divertissement splendide et profond, alarmant et drôle. À l'affiche aussi cette semaine, mais d'un autre niveau, ce sera Classe Moyenne, le nouveau film d'Anthony Cordier avec une belle distribution pourtant, Ramzi Bedia, Elodie Bouchez, Laurent Lafitte et Laure Calamy. C'est l'histoire de Mehdi qui est prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Et comme Mehdi est issu d'un milieu modeste, il pense pouvoir mener des négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout va s'envenimer, bien sûr. Comme disait l'autre, hein, salaud de pauvre et salaud de riche, et entre les deux, il y a une classe moyenne. La répartition des rôles, d'ailleurs, n'a pas dû être très difficile à définir. Hein. Chacun des interprètes joue un peu sa partition très attendue. Laurent Lafitte, la mèche faussement rebelle et puis son sourire ultra bright. Élodie Bouchet, qu'on a toujours plaisir à retrouver en femme d'intérieur un peu autosuffisante. Versus donc Laure Calamy en monde rentre-dedans, hein, comme elle sait le faire. Et Ramzy Bedia a l'air un peu faussement ahuri. Anthony Cordier semble d'abord jouer à plein hein, sur ces deux pôles qui, à force de frottement, pourraient trouver peut-être un terrain d'entente, fait de compromis. Et d'ailleurs, il est amusant que ce soit à la jeunesse de porter la parole du consensus, ceci faisant fi des querelles socio-culturelles, cherchant ainsi à ramener les boomers à la raison et à la maison, avec une mise en place énergique plutôt marrante. Voilà, Anthony Cordier cherche à tout prix le point de rupture jusqu'à un final qui met la balle au centre. À l'affiche aussi, cette semaine, on peut voir Mukanga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Un film que vous pourrez voir à l'ABC de Toulouse avec une séance spéciale le vendredi 26 septembre à 20h15 en présence de la réalisatrice Marie-Hélène Roux. On peut voir aussi cette semaine Rembrandt de Pierre Scholler avec Camille Cotin et Romain Duris. On peut voir donc TKT aussi.
T'inquiète.
TKT, ça veut dire t'inquiète.
Et oui, c'est important.
Je ne parle pas le jeune, j'ai pas de portable, donc le langage SMS, mais complètement mais étranger.
Voilà. Donc c'est du langage SMS.
Donc, TKT, c'est, ne t'inquiète pas.
Ouais, c'est comme LOL ou MDR. Ouais. Voilà. D'accord. TKT, rire, c'est t'inquiète.
D'accord.
T'inquiète. Et les parents s'inquiètent.
Et oui. Parce déjà, il faut déchiffrer le charabia que disaient les jeunes, c'est très bien. Avec Émilie Duquesne, Le Million, ah, ça nous plairait bien, ça, un petit
c'est,
million.
C'est ce que j'ai gagné la semaine dernière.
Mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites ici alors?
Je vais racheter la radio.
Vous allez racheter
la radio.
Pour les augmenter comme ça. De Grégoire Vigneron, hein, à consommer avec modération, les films de Vigneron, bien sûr. On peut voir aussi Continental 25 de Radu Jude, un film roumain qu'on peut voir au CGR, le Paris Montauban ou à l'ABC à Toulouse. Et pour finir, un documentaire, Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepile Farsi et Fatma Sona, qu'on peut voir par exemple au Régien à Saint-Gaudens ou l'American Cosmograph à Toulouse.
Dans Une bataille après l'autre, on peut l'entendre, cette chanson Dirty Work de Steely Dan, une chanson de 73. On ne sait pas.
Quelle belle année.
On ne sait pas quelle est l'époque du film, mais il y a des morceaux un peu.
On reconnaît bien le son de Steely Dan.
Oui, c'est un très grand groupe, Steely Dan, avec Donald Fagen notamment.
No more.
Laissons partir Steely Dan pour accueillir notre homme de loi des séries qui ce soir a revêtu sa tenue d'avocat pour nous parler d'Alien First sur Disney+.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, une fois n'est pas coutume, je vais encenser une série télé produite par Disney. Oui, je sais, je ne suis pas devenu fou, mais effectivement, on a une série télé produite par Disney qui est une vraie réussite et qui en plus est un revival d'une licence des années 80-90. Donc, que demande le peuple ? Je vais vous parler évidemment de Alien Earth. Alors, comme vous le comprenez par rapport au nom, nous sommes dans la fameuse franchise Alien. Vous savez, Alien, le huitième passager, la créature de l'espace où nul ne vous entendra crier, qui perfore votre thorax pour ensuite grandir et tuer tous les gens d'un équipage. Et là, moi, la peur que j'avais, parce que ça fait un petit moment qu'ils tentent de faire revivre un peu cette franchise, soit avec le très moyen Prometheus, le très décevant Alien Covenant, ou le plutôt insipide et là produit par Disney, Alien Romulus, qui ne faisait que singer le premier Alien. Et moi, le problème que j'ai avec cette franchise, c'est que c'est une franchise de SF, mais qui n'arrive pas à se sortir de ses poncifs classiques de « on est coincé dans un endroit avec une bête qui veut nous manger ». Et en fait, à part Alien 2 qui a amené des changements intéressants à la saga, il ne se passait rien. Je sais, il y a des gens qui adorent Alien 3, moi je le trouve assez pathétique. Et beaucoup de gens disent, mais quand même, Jean-Pierre Jeunet, il a fait Alien 4. Oui, mais Alien 4 balaye d'un revers de main tout l'aspect critique forte du grand capitalisme qui, justement, fait le sel de cette saga. Parce que Alien, et après je vais rentrer sur Alien Earth, pourquoi c'est réussi, c'est à la fois un survival, c'est à la fois une critique des grandes corporations qui prennent le contrôle de notre société et dont la vie humaine est denrée périssable et sacrifiable à volo. Et c'est aussi une allégorie du viol par rapport au facehugger qui saute sur le visage et qui pond de façon violente dans le corps d'une personne. Et donc je me suis dit, est-ce que Disney va s'en sortir avec tout ça ? Eh bien, ils s'en sortent avec brio sur une série qui fait 8 épisodes, qui est filmée de façon assez incroyable, à la fois moderne, mais en reprenant le style des années 80. Les acteurs et actrices ont un style physique et vestimentaire années 80, tout en faisant ce côté rétro-futuriste que j'aime bien, mais pas un rétro-futurisme habituel années 50, mais là, années 80. Et surtout, on va aborder tous les sujets chers à la licence, c'est-à-dire ce côté, justement, des créatures de l'espace qui vont violer votre corps. Et là, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Mais aussi tout le côté des grandes corporations qui ont pris le contrôle de la Terre et qui se battent justement pour ces créatures-là. Et là, pareil, on a vraiment une analyse politique qui est fine, assez rapide, hein, ça prend pas tout le temps, mais assez fine pour nous donner des choses à apprendre sur le monde d'Alien. C'est très bien fait, ça avait été oublié depuis trop longtemps. On a aussi toute une analyse sur les cyborgs, les synthétiques, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais vous spoiler des choses, mais sur l'intelligence artificielle, sur tout ça, qui va très loin. Et je rassure aussi les gens qui aiment beaucoup l'aspect terreur et gore, oui, la série est violente et gore. D'ailleurs, seuls les adultes doivent la voir. C'est une série qui ne lésine pas sur les effets spéciaux, même très malsains, complètement dans l'ADN de la saga. Alors, l'histoire, elle est simple, hein. C'est en 2120, la société est dominée par 50 grandes corporations, dont Prodigy et Weyland-Yutani, la fameuse Weyland. Et il y a un vaisseau de la Weyland contenant des entités extraterrestres qui se crachent en pleine ville. Et donc, ça va être une course à la technologie pour aller chercher ce qu'il y avait dans ce vaisseau. Mais évidemment, l'horreur va se déverser et les innocents pris entre deux feux vont vivre drame sur drame. Je vous en dis pas plus parce que le scénario est très fin, il y a beaucoup de retournements de situation, c'est très bien filmé, j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2, apparemment ça marche bien. Honnêtement, c'est ça qu'il fallait faire pour toutes les revivals des séries des années 80-90. Un vrai respect de la franchise, un élargissement de l'histoire et du lore, et un casting d'acteurs et d'actrices qui correspond totalement à la vision de la franchise. C'est une réussite absolue, une des meilleures séries de cette année. Vraiment, si vous aimez Alien, regardez Alien Earth, on n'a pas fait mieux depuis Alien 2. Je vous remercie.
Eh bien, quand notre homme de loi des séries, Grégory Com, aime, il ne compte pas. Donc, nous ne compterons pas non plus. Aussi stressante et angoissante que ce qu'on peut voir à l'écran, la musique d'Alien Earth est signée Jeff Russo.
Je m'appelle Bond, James Bond, et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me.
You've got a friend in me. Et vous l'avez reconnu, cette chanson signée Randy Newman qui marque le film de John Lasseter, Toy Story, sorti en 1995 et qui revient sur les écrans comme une sortie puisque nationale, puisqu'on peut la voir sur n'importe quel écran de n'importe quel cinéma à proximité de chez vous.
30 ans après.
Eh oui, c'est justement ça qu'on fête, je présume. Notez que Randy Newman n'est pas habitué à la composition de bande originale de film, mais il faut dire que John Lasseter, qui avait été choisi pour réaliser le film, il n'était pas partant pour faire une comédie musicale comme les dernières productions Disney, comme La Petite Sirène, Aladdin ou Le Roi Lion, qui avait cartonné. Les producteurs ont demandé, il a réussi à les convaincre, à Randy Newman, de composer la musique de film, et ça donne cette chanson qui reste irrémédiablement accrochée à ce film-là, et dès qu'on entend les premiers accords, eh ben, on reconnaît le film. Vous savez ce que raconte Toy Story? Ben, c'est que, eh bien, on est dans la chambre d'un petit garçon, et dès qu'il disparaît, eh bien, Andy, c'est son prénom, dès qu'il disparaît, les jouets se mettent à vivre. Sauf que la famille va déménager. Et les jouets qui vivent ont peur d'être remplacés et surtout d'être oubliés et mis à la poubelle. Et quand on fait les cartons, on fait le tri. Et voilà tout ce que va raconter le film, savoir la lutte des jouets pour être encore dans l'univers d'Andy et ce que ça se passera ou pas. En tout cas, ça marche et des deux personnages centraux qu'on suit et qui sont rivaux au début et qui deviennent copains puisque le jouet préféré de Andy, c'est un cow-boy, Woody. Et puis débarque Buzz l'éclair qui, lui, a les yeux qui s'allument et qui fait plein de trucs que l'autre ne fait pas. C'est un nouveau jouet. Voilà donc pourquoi.
La guerre des jouets.
Il va y avoir une rivalité entre deux. Toy Story, donc, dans un cinéma à l'affiche près de chez vous.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Listen, thank you.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did true.
On se souvient tous, là aussi, après Toy Story, dans un genre complètement différent. Les deux, le couple qui danse sur la scène de ce concours de twist, sur la piste de danse, pas une scène, sur la piste de danse, bien sûr.
John Travolta.
Vince Vega et la femme de Marcellus Wallace, c'est Mia, hein, je crois, incarnée par Uma Thurman. Et c'est là où John Travolta a un trou à la chaussette, parce qu'il danse en chaussette, ils ont enlevé leurs chaussures, il a un trou à une chaussette, et il passe devant ses yeux, ses fameux doigts, après l'autre, et voilà, Pulp Fiction, donc... Palme d'or. Le film.
Palme d'or à Cannes.
Ouais, 94.
Palme d'or à Cannes, oui, effectivement. C'était, vous l'avez 94. Raison, en 94. Alors pourquoi passe-t-on Pulp Fiction ? Eh bien parce que vous pouvez revoir le film. Alors vous dire quand et quel jour, ça va être compliqué, mais allez sur le site de Pathé et vous verrez pourquoi. Parce que il y a une rétrospective Palme d'or du 22 au 4 octobre 2025 au Pathé Wilson. Pourquoi ? Eh bien parce que le 1er octobre sort la Palme d'or du Festival de Cannes 2025, le film de Jafar Padhahi, Un simple accident, que vous pourrez voir en avant-première mardi prochain, 30 septembre, à 20h, donc je le disais, la veille de sa sortie. Alors je ne vais pas faire la liste de toutes les palmes qu'on peut voir, alors il n'y a pas toutes les palmes, bien sûr, puisqu'il y en a beaucoup, mais on va de des années 70 même, des années 60, puisqu'on peut voir Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. On peut voir aussi, plus près de nous, 1976, Taxi Driver de Martin Scorsese. Les deux Palmes d'Or d'Emir Kusturica. Papa est en voyage d'affaires et Underground, qu'il avait eu 10 ans après le premier. Hein. 85 pour l'un, 95 pour le suivant.
Oui,
et puis, quoi d'autre encore, aller au hasard. La première palme d'or obtenue par une réalisatrice.
Le son de piano.
Mais inévitablement, on ne pouvait pas laisser une femme toute seule avoir une palme d'or.
Elle a eu...
Non. Non, je reste avec la leçon de piano.
Ah,
elle ne pouvait pas être toute seule pour être une femme à avoir une palme d'or. Donc, il y a eu une palme d'or ex aequo cette année-là.
Ah oui.
Adieu ma concubine de Chen Kaige, un film de 80 qui a eu la palme d'or en 93 également. Ils étaient ex aequo et on peut voir les deux films. Allez, j'arrête là. Si, qu'est-ce que je vous dis d'autre encore ?
Oui.
Allez, La Chambre du Fils de Nanni Moretti en 2001. Voilà, tout ça, c'est au Pathé ou Wilson, allez sur le site de Pathé pour voir à quel moment vous pourrez découvrir ces films. Ils ne sont projetés qu'une seule fois, alors ne les ratez pas. Alors, qu'y a-t-il d'autre avoir au chapitre des reprises au cinéma. Alors tiens, à la Cinémathèque, il y a la Galaxie Jaoui, dont vous a parlé notre éminent spécialiste de la mécanique cinématographique, Guillaume Sidom. Eh bien, on parle de La Règle du Jeu. Tiens, La Règle du Jeu, le film Jean signé Renoir. Jean Renoir de 1935, pas très bien accueilli à sa sortie, puis qui est devenu plus tard
1939.
Oui, qui est devenu plus tard un grand monument du cinéma français, sans doute parce qu'il décrivait
les classes sociales,
les mœurs de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie et des domestiques et qui les servent. C'est la peinture de ces mœurs est pas extraordinaire et a pas plu à tous les publics.
Dérangeante.
Oui, dérangeante. C'est dérangeant. Alors, à la Cinémathèque, qui est accueillie en ce moment par le Pathé Wilson, c'est pour mardi prochain, 30 septembre à 19h30, La Règle du Jeu. Et sinon, pour la série, pas la série, mais l'autre thème, mais ce qu'on peut voir à
Remake,
c'est-à-dire je cherchais le aux abattoirs, au musée d'art contemporain. On peut voir Yojimbo, le fameux film de Akira Kurosawa. L'histoire très décalée de ce samouraï. On est dans un village japonais du 19e siècle, déchiré par la rivalité entre deux clans criminels. Et c'est Toshiro Mifune, l'acteur fétiche d'Akira Kurosawa, qui joue le rôle de Sanjuro, un ronin, je ne sais pas comment on doit le dire, un samouraï sans maigre, cynique et rusé, qui va arriver dans ce village et qui va jouer sur les deux tableaux et il va s'en sortir pas mal. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça, cette histoire de Ronin, de tueur à gages qui arrive dans un village et puis qui y a deux...
Pour une poignée de dollars.
Mais oui, c'est pour une poignée de dollars, c'est le remake de Yojimbo, le film de Sergio Leone. Voilà pourquoi remake, autant voir l'original. Et donc l'original... Vous pouvez le découvrir aux abattoirs, samedi 27 septembre à 18h. Et puis vous irez faire un tour au VO de Muret pour voir Chantage d'Alfred Hitchcock, dimanche prochain 28 septembre à 18h. Et à l'American Cosmograph, où se déroule... Une teenage apocalypse, c'est comme ça que ça s'intitule. Greg Araki, c'est le réalisateur. Trois films en copie numérique restaurée. Les films sont diffusés de façon quotidienne ou hebdomadaire, à vérifier sur le site american-cosmographe.fr. Voilà pour les reprises sur le grand écran. Sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck. L'histoire de Lee, qui, à la suite de la mort de son frère, est obligé de retourner à Manchester by the Sea. Il se retrouve confronté à un passé chargé de douleur et de tragédie qui le hante. Un homme incapable d'exprimer une émotion, Casey Affleck livre une performance inoubliable. Le tout porté par une réalisation tout en finesse. Jeudi, France 4, 21h, Flea, un documentaire de Jonas Rasmussen, qui n'est pas un cycliste mais bien un cinéaste. L'histoire d'Amin, un réfugié afghan qui accepte de partager son récit déchirant avec un ami réalisateur. Amin revisite son enfance à Kaboul avant que tout ne bascule dans le chaos de la guerre civile. Mêlant habilement l'intime et le politique, ce récit animé, poignant et sensible, explore avec profondeur la quête identitaire. Vendredi 21h, France 5, ce sera L'étrange histoire de Benjamin Button avec deux David Fincher avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Vous savez, ce récit qui retrace la vie hors du commun de Benjamin, né en 1918 avec l'apparence d'un vieillard de 80 ans. Il va rajeunir tout le long de sa vie, un peu comme vous, Guillaume.
C'est ça.
Hein, c'est étonnant.
Les cheveux en moins. Mais
voilà.
Ouais, c'est une tête de bébé. Quoi.
C'est ça, mais vous êtes un gros bébé. Inspiré d'une nouvelle de Fitzgerald, un récit sensible et mélancolique avec des acteurs glamour, assoués. Dimanche, Arte 21h, messieurs, un petit western, un True Grit de frères Coen avec Jeff Bridges et Ellie Stanfield dans l'Arkansas de 1870. Mattie Ross, une jeune fille, est déterminée à venger le meurtre de son père. Elle fait appel à un vieux Marshall vieillissant, Roster Cockburn. Voilà, le western inspiré hein, qui bénéficie d'une belle mise en scène, très réjouissant. Et on peut revoir l'original, tourné en 69, $100 pour un shérif de Henry Hathaway avec bien sûr John Wayne. Ah bah oui. Le conseil Blu-ray, ce sera Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard de Billy Wilder, 1950, avec William Holden, Gloria Swanson, l'histoire de Norma Desmond, une grande actrice du muet qui vit recluse dans sa villa de Beverly Hills. Et un jour, elle rencontre Joe Gillis, qui est scénariste, elle va lui proposer d'écrire un nouveau scénario qui marquera son retour à l'écran. Voilà, le portrait au vitriol, là aussi, est lucide de la jungle hollywoodienne, à l'audace narrative inégalable pour l'époque. Un Blu-ray que vous retrouvez aux éditions Paramount Pictures pour la somme de 29,99€. Tenez, Guillaume, je vous l'offre.
L'un de mes films préférés, j'en ai fait une chronique, bravo.
Écoutez, voilà, le cadeau, c'est pour vous. Merci, voilà, pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records.
Pour nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission et vous permettre, messieurs, de nous donner vos coups de cœur, un extrait de la bande originale de 8,5 en 63, dans lequel il y avait bien sûr Marcello Mastroianni, mais surtout aussi Claudia Cardinale, le film de Fellini. Pourquoi 8,5? Au moment où il a tourné le film, il avait fait 8 longs métrages et 2 courts. 8,5. Messieurs, vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera pour Une bataille après l'autre. Et samedi, 18h, aux abattoirs, Yojimbo d'Akira Kurosawa.
Une bataille après l'autre, la Cinémathèque Galaxy. Jaoui, gagnez vos places à cinéma@radioprésence.com. Et puis le Festival d'Histoire à Plaisance du Tout jusqu'au 27 septembre. À noter l'excellente chronique Mercredi Cinéma consacrée à ce festival à retrouver sur radioprésence.com.
Merci Guillaume Sidom. Eh bien, allez écouter ça puisque moi aussi je suis fan du Festival International du Film de Fiction Historique. Et puis Une bataille après l'autre, Muganga, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux. Et puis surtout le documentaire, je vais arriver à le dire, peut-être Put Your Soul on Your Hand and quoi? And walk. Allez, salut!
Bonjour, c'est Nathalie Cardon. Ouvrez la porte vers une vie plus épanouissante et spirituellement enrichissante avec l'émission Des Clés pour Vivre.